11h midi. Studio B. Studio B.
Je vais me prouver que je suis capable.
On parle pas de ton père, on parle de toi.
Tu pars quand?
Pour mon mère Rodois, pour mon paternel. Venez, mon prince.
Ça vous dérange pas un élève de plus?
Il est motivé, oui, pourquoi pas.
Tu peux me dire à quoi ça sert d'être des vedettes?
Vous êtes vraiment des héros.
Comment on est stylé?
Je vais vous envoyer au bled chez ma mère et vous allez faire du moonwalk sur les cactus. C'est terminé. Salam, shalom.
Au revoir, nous c'est au revoir.
C'est ça, casse-toi.
Venez, moi.
Et le soleil est là, car je l'ai demandé.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.
Bonjour à tous, bienvenue, c'est Studio B. Bienvenue sur Studio B, moi c'est Christophe. Et avec Linda, jusqu'à midi, on va vous parler de cinéma. Bonjour Linda, comment ça va?
Salut Christophe, bah, écoute, ça va, hein. Il neige plus, donc j'arrive à venir, c'est une bonne chose.
C'est marrant, la semaine dernière, Nassima disait, ouais c'est bon, c'est le printemps, maintenant on verra plus de neige. Et hop, c'est reparti.
Bah, voilà. Moi aussi, je m'attendais pas à ce que ça revienne, mais voilà, on voit pas.
Allez, en ce week-end de printemps du cinéma, où on a plutôt un temps d'hiver, mais c'est pas grave, parce que c'est un temps de cinéma finalement, c'est un temps d'aller voir des films dans les salles. Restez avec nous jusqu'à midi, voici le programme. On commencera dans moins de 2 minutes par les sorties ciné de la semaine prochaine. Comme d'hab, il y en aura pour tous les goûts, du dernier Kechiche au nouveau Pacific Rim, en passant par un film fantastique brésilien, des anciens drogués repentis dans la prière, un film iranien, un film sur terrorisme politique italien, et puis un documentaire. Et puis il y aura aussi le J'y vais pas de Linda.
Et oui, on va faire un j'y vais pas sur le film La Finale.
C'est la grosse comédie française qui sort mercredi prochain. Ouais. Et tu nous diras si tu as envie d'y aller ou si tu n'as pas envie d'y aller. 11h30, votre rendez-vous avec le box-office où on verra que la petite famille marche toujours bien. Et puis les news de Linda.
On va parler de Taxi 5, on va aussi parler de OSS, j'arrive pas à le dire, OSS.
Il y a trois lettres pour qu'on
vote. Ouais, non, mais je dis OCS.
Ah oui, non, là tu fais la pub pour la chaîne Cinéma d'Orange.
Et on finira avec la deuxième édition de la fête du court-métrage.
Voilà, notre film de la semaine, c'est Razia. C'est notre film de la semaine, mais c'est aussi un gros coup de cœur de ma part. Un beau film dans sa réalisation, dans ses images, dans sa musique, dans sa lumière. Et un film beau dans son message, dans l'envie et la quête de liberté de ses personnages. Linda, je te laisse présenter notre invité de la semaine.
Alors, vous êtes né le 1er avril 69 à Paris. Vous êtes réalisateur et membre de l'Académie des Césars. En 97, vous réalisez votre premier long métrage, Mektoub, qui a connu un grand succès et qui est le premier film à représenter le Maroc à l'Académie des Oscars. En 2000, vous livrez votre deuxième film titré Ali Zaoua, Prince de la rue. C'est aussi vous qui révélez Jamel Debbouze grâce à votre film Les pierres bleues du désert. En 2015, Much Love est sélectionné au Festival de Cannes, mais est interdit au Maroc. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous parler de votre dernier film, Razia.
Bonjour Nabil Ayouch, bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour.
On a une coutume avec tous nos invités dans Studio B, on leur demande de choisir une question qu'ils ont envie qu'on leur pose, et donc c'est une question qu'on vous posera d'ici la fin de l'émission, et puis une question que vous n'avez pas envie qu'on vous pose, c'est là comme vous voulez pas, on vous la posera pas. Est-ce que vous avez vos deux questions, Nabil Ayouch?
Alors, s'il y a une question que j'aimerais bien que vous évitiez de me poser, parce qu'on me l'a beaucoup posé ces derniers temps, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film?
Très bien, alors celle-là, si tu l'avais prévu Linda, on la raye.
Non, je crois pas.
C'était la première question que vous alliez me poser, c'est ça?
Non, pas.
Bon. Non, on essaie de faire un petit peu original dans Studio B. Et une question, est-ce que, alors, du coup, vous avez une question que vous avez envie qu'on vous pose?
Et ben là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez.
Sauf celle que vous voulez pas qu'on vous pose. Allez, c'est noté, ça tombe bien. On a plein de questions. Vous êtes avec nous jusqu'à midi dans Studio B. Bienvenue dans le 46e numéro de Studio B.
Studio B, les sorties ciné de la semaine.
Tu vas nous parler des sorties ciné, Christophe, et on commence avec Mektoub My Love.
Canto Uno, c'est l'événement de la semaine, le nouveau film d'Abdelatif Kechiche, 5 ans après le succès de La Vie d'Adèle. Il adapte cette fois-ci un roman. L'histoire se passe à Sète, dans le sud de la France, en 1994. L'histoire d'Amine, qui est un apprenti scénariste à Paris, qui retourne dans le sud, chez ses parents, pour l'été. Il passe beaucoup de temps avec un cousin, à la plage, au milieu des filles. Son cousin est très séducteur, lui est plutôt timide, jusqu'à ce qu'il flash sur une fille. On retrouve les thèmes chers au réalisateur Abdelatif Kechiche, le désir, l'éveil à l'amour et à la sensualité. Comme d'habitude, c'est un film long, près de 3 heures. Kechiche, qui aime révéler de nouveaux acteurs, c'est encore le cas ici avec Shane Boumediene, retenez bien son nom. Il est vraiment salué par la critique, c'est le nouvel acteur qui va percer grâce à ce film, Shane Boumediene. On retrouve aussi dans ce film Afia Erzi ou encore Salim Kechiche, avec qui il avait travaillé dans ses précédents films. Alors, vous avez entendu le titre, Canto Uno, il y aura donc une suite qui a déjà été tournée et peut-être même un troisième épisode, donc Mektoub My Love, ça sort mercredi prochain.
Pacific Rim Uprising.
C'est l'autre événement de la semaine dans un autre style, c'est la suite de Pacific Rim, sorti il y a 5 ans. Alors si vous ne l'avez pas vu...
Tu as une occasion de te rattraper.
Voici un résumé. D'un côté, le kaiju.
C'est qui ça?
c'est des monstres immenses arrivés sur Terre par une brèche interdimensionnelle et bien décidés à tous nous tuer. De l'autre, les Jaeger.
C'est qui ça ?
Ça, c'est des robots géants créés par l'homme pour se défendre contre les Kaiju. Dans le précédent épisode, les Jaeger ont gagné, mais là, on a un problème.
Les Kaiju, ils vont se repointer.
Tous les espoirs de sauvetage de l'humanité vont reposer sur deux pilotes de Jaeger. Bref, alors bon, si vous aimez les grosses machines qui se battent en faisant exploser des immeubles et voler des voitures en feu...
C'est ça que je veux !
Allez-y, vous allez en prendre plein les yeux. Sinon, allez voir Make to My Love, c'est l'autre film.
Et tu vas nous parler des bonnes manières.
Tiens. Les bonnes manières, c'est un autre film qui sort mercredi prochain. Un film fantastique franco-brésilien qui pourrait être la bonne surprise de la semaine. Il a été primé dans de nombreux festivals. C'est une infirmière qui est embauchée au Brésil par une femme riche et mystérieuse pour être la nounou de son futur enfant. Allez voir la bande-annonce qui laisse paraître plein de mystères et de poésie. Les bonnes manières, ça sort aussi mercredi.
La prière.
La prière, bande-annonce.
Le père François nous a dit que tu avais fait une overdose. T'inquiète pas, personne ne te juge ici. On a tous connu la même chose. Il n'y aura rien pour t'aider. Pas de médicaments, pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de filles non plus. Elles vivent ailleurs, dans une autre maison. Je sais que c'est difficile pour toi.
Arrête de me faire chier avec tes phrases.
Arrête, on va vivre. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ta chérie?
Salut, t'étais là-haut chez les Tox?
Les anciens Tox.
T'as craqué? Si j'étais toi, je retournerais là-haut.
Je me colle une balle si j'y retourne.
C'est ta seule chance de t'en sortir.
Tu es heureux ici, vraiment?
Oui, je suis heureux.
Si tu vis dans le mensonge, tu peux pas être heureux.
Alors la prière, au-delà de l'aspect religieux, c'est un film sur un jeune qui va découvrir l'amitié, le travail et l'amour dans des circonstances un petit peu particulières.
À voir aussi cette semaine.
Doctar, c'est un film iranien où une fille se rebelle contre son père autoritaire et conservateur. Il y a aussi Après la guerre, un film sur le terrorisme politique en Italie. Et puis Demons in Paradise, un documentaire sur les massacres des Tamouls au Sri Lanka dans les années 80. Nabil Ayouch, est-ce qu'il y a un film particulier qui vous donne envie dans les sorties de la semaine prochaine ?
Ah, moi j'aime beaucoup le cinéma d'Abdelatif Kechiche, donc je pense que j'irai voir Make to My Love.
Make to My Love, Contono, donc qui sort mercredi prochain. Autre film qui sort mercredi, c'est La Finale, c'est le film que tu as choisi pour le JV, j'y vais pas. Tu vas nous dire, Linda.
À ton avis, j'y vais ou j'y vais pas?
Moi je sais que j'ai lu un peu ta fiche et je sais que tu n'y vas pas.
Ah, triché.
Tu vas nous dire justement que tu n'y vas pas après avoir écouté l'abondance du film.
Voilà. Qu'est-ce que tu cherches?
J'ai la dalle, je voulais me faire une omelette.
Avec une brosse à dents?
Jean-Baptiste, ton grand-père, il faut toujours savoir où il est.
Et comment ça va, Roland?
On se connaît?
On se connaît?
On se connaît?
Roland! Ma couille!
Ma couille, ouais.
Bah, tu le connais?
Mon chéri, on a eu un petit problème.
Mais maman, j'ai ma finale! C'est quoi le projet? Vous voulez gâcher ma vie, là?
De toute façon, je serai jamais en club, c'est inutile.
Eh ben, il faut y croire. C'est ça, le sport. Et ça, c'est une voiture de sport.
Merde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Je sais plus comment ça marche. Conduis, toi.
Quoi?
Tu sais conduire, non?
Ah ouais, mais quand conduis, t'accompagner?
Eh ben, je t'accompagne.
Tu te rends compte des risques que t'as fait prendre à ton grand-père?
Mais de quoi tu me parles? T'en as rien à foutre de lui! Tu l'as toujours détesté!
Une famille, c'est comme une équipe. Si on veut que tout le monde gagne, faut pas jouer perso. Il a compris ça, le petit. Il m'a pas laissé sur le banc, lui.
La Finale, ça sort mercredi prochain. Linda, alors toi, tu y vas pas?
Et ouais, c'est une première hein, pour moi. D'habitude, je fais toujours des JV, mais aujourd'hui, ce sera un JV pas. Alors, j'ai vraiment pas eu le coup de cœur hein, pour ce film La Finale, tout simplement parce que j'ai vraiment l'impression de voir un mélange low cost encore entre Intouchables et Babysitting. Alors, pour résumer l'histoire, c'est une comédie dramatique avec Thierry Lhermitte, un grand-père souffrant d'Alzheimer. Il va chez sa fille où il est détesté par son gendre et ses petits-enfants. En même temps, c'est normal, il ne s'est jamais occupé d'eux. Il est embarqué par son petit-fils, Jean-Baptiste, joué par Ryan Bensetti. Alors, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, Ryan Bensetti me fait vraiment beaucoup penser à Kev Adams, mais encore une fois, en version low cost. Vous en pensez quoi? Vous ne trouvez pas qu'il ressemble un peu à Kev Adams?
Je ne sais pas qui c'est.
Ah, vous ne voyez pas qui c'est, Ryan Bensetti?
Bon, c'est quelqu'un qui était révélé par l'émission Danse avec les stars, voilà, et qui se lance maintenant dans le cinéma. Mais c'est vrai qu'en regardant la bande-annonce, il y a vraiment un jeu, on dirait Kev Adams.
Non, mais ouais, il lui ressemble vraiment, je trouve. Même dans ses mimiques, c'est à peu près pareil. Donc, celui-ci est attendu pour disputer une finale nationale de basket à Paris. Donc, on imagine bien, évidemment, qu'il s'agit d'un road movie à la française. Et pourtant, ce film a remporté le Grand Prix du 21e Festival de l'Alpe d'Huez avec un prix d'interprétation pour Thierry Lhermitte. Alors, moi, je le voyais juste en téléfilm, hein, style Camping Paradis. Je ne suis pas très gentille. Mais je me dis qu'heureusement, je ne faisais pas partie du jury. Enfin, bon, je suis encore un peu dure avec ce film. Je pense qu'il se regarde. Hein. Il y a sûrement de l'humour, mais encore une fois, à regarder à la maison et pas au cinéma.
Mais on a bien compris que toi, tu n'irais pas le voir au cinéma. Bon, maintenant qu'on a parlé de celui-là, il est temps de parler du film auquel on a envie d'aller. Et c'est le film de Nabil Ayouch, notre invité, et qu'on a vu en plus. Non seulement on a envie d'y retourner, presque. C'est le film Razia. C'est l'heure de l'interview.
Studio B, l'interview.
Nabil Ayouch, donc vous êtes avec nous jusqu'à midi. Vous venez nous présenter le film Razia, votre film qui est à l'affiche depuis mercredi. N'hésitez pas à aller le voir. Voilà, on est dimanche aujourd'hui. Paf, cet après-midi, vous avez rien à faire, il pleut. Pouf, allez au cinéma, allez voir Razia. De quoi parle votre film ?
Il parle de combat, de résistance, de cinq personnages qui sont en lutte pour préserver leur espace de liberté. À la fois dans le Maroc d'hier, au début des années 80, un moment crucial de l'histoire du Maghreb, pas seulement du Maroc, qui est la réforme de l'arabisation, du système éducatif, et dans le Maroc d'aujourd'hui, Casablanca, 2015.
Première question pour moi, que signifie Razia ?
Razia, c'est un mot arabe, à la base. Ça vient de Razwa. C'est le fait d'aller dans un territoire étranger et de tout prendre, tout emporter avec soi.
Alors, dans Razia, vous racontez la vie de cinq personnages très différents les uns des autres. Chacun d'entre eux a une notion différente de liberté. Qu'est-ce que vous vouliez montrer ?
Je voulais surtout dire à quel point je suis aujourd'hui blessé par toutes ces formes d'oppression qui ferment des espaces pour les jeunes, les gens qui veulent rêver, les gens qui veulent continuer à se projeter dans dans l'avenir, et à quel point je trouve que sur certains sujets essentiels qui touchent aux libertés individuelles et notamment à la place de la femme dans la société, on recule.
Comment est-ce que vous avez été inspiré par ces cinq personnages ?
En fait, ils sont remontés à la surface tout naturellement après ce qui s'est passé sur Much Loved, qui a été non seulement une blessure, mais qui a été quelque chose, une expérience très particulière dans la vie d'un réalisateur. Vous savez, être coupé de son public naturel, c'est quelque chose de pas agréable, parce que moi je fais des films pour être montré, et qu'elles soient montrées dans le reste du monde, c'est formidable, mais j'ai envie avant tout qu'ils soient montrés dans la région du monde où j'habite, qui est le Maroc. Et je suis ressorti de cette expérience à la fois blessé et à la fois encore plus convaincu de ce que j'avais à dire et de ce que j'avais envie de montrer. Et petit à petit sont remontés ces cinq personnages qui viennent d'un passé lointain, pour l'instituteur par exemple, mon enfance à Sarcelles, et pour les autres, de gens, d'hommes, de femmes que j'ai aimés, que j'aime encore, qui m'inspirent depuis 20 ans que j'habite à Casablanca.
Ça pourrait être un peu la suite de Much Love sur certains points ?
Ça pourrait pas être la suite de Much Love au sens de la narration, du récit du film, parce que c'est deux films qui n'ont strictement rien à voir. Mais par contre, dans ce que je raconte, dans ce que j'ai envie de dire sur l'état du monde, oui, certainement.
Est-ce que vous pensez que les films que vous réalisez peuvent aider, par exemple, à modifier des lois, comme celle qui vient d'être promulguée au Maroc sur le harcèlement sexuel, par exemple ?
Complètement. Ouais. Complètement, parce que je trouve que les politiques n'ont pas assez de pression. La société civile, les citoyens sont souvent assez désarmés, parfois même désunis, pour pouvoir faire bloc et pouvoir inciter les hommes politiques, les gouvernements, à jouer leur rôle pour créer du changement dans les sociétés. Et je pense que les arts, la culture et le cinéma en particulier, qui est un art populaire par essence et qui est un art pénétrant, l'image a une puissance, une force absolument incommensurable, peuvent absolument jouer être des vecteurs pour faire changer les choses, pour changer les lois, pour changer aussi les mentalités, parce qu'au-delà des lois, il y a les mentalités.
Linda parlait de la loi sur le harcèlement. Est-ce qu'il y a un côté féministe un petit peu sur votre film, en particulier peut-être sur une des cinq histoires, plus que les autres ?
Oui, on a parlé de la loi sur le harcèlement, qui, entre parenthèses, c'est très bien, mais loin d'être assez. Non, parce qu'elle n'est pas bien pensée.
Elle n'est pas
aboutie. Pas bien pensée, et elle oublie des éléments essentiels comme le viol conjugal, par exemple, qui sont les cas de harcèlement les plus importants chez nous. Mais on aurait pu parler aussi de la réforme sur l'héritage. Il y a des femmes qui ont manifesté en 2015 contre leurs propres droits.
C'est ce qu'on voit dans votre film, un moment.
Qu'on voit dans Razia absolument, en étant en tête des manifs pour dire non, on ne veut pas de l'égalité dans l'héritage. Là, depuis une semaine, j'observe un mouvement contraire, puisqu'il y a des femmes de plus en plus qui élèvent la voix pour lancer un appel à l'abolition de certains éléments les plus rétrogrades dans l'héritage, au Maroc. Et ça, c'est formidable. Et moi, je crois, si vous voulez, aux minorités agissante. Si on parle de la question féminine, oui, bien sûr. Des modèles, il y a des notions d'exemplarité qui sont très importantes à construire pour des jeunes filles qui, dans des quartiers, sont un petit peu isolées, ont l'impression de pas être suffisamment fortes pour mener ces combats, de se dire, ben voilà, ces femmes au Maroc, en Tunisie notamment, parce que je trouve les femmes tunisiennes... je trouve les femmes tunisiennes absolument remarquables et à l'avant-garde dans ces combats-là, ben, c'est forcément inspirant pour plein d'autres femmes ailleurs dans le monde arabe. Et Dieu sait qu'on a besoin de cette inspiration-là. Parce que c'est aux femmes de mener ces combats, vous savez. Les hommes donneront jamais rien aux femmes.
Vous le faites pourtant, vous, ce combat pour les femmes.
Moi, je montre. Moi, je dis. Et c'est ce que j'aime en faisant du cinéma. Après, pour conquérir des espaces de liberté, je ne suis pas une femme. Donc c'est aux femmes d'aller se battre pour prendre... ce qui leur est dû, c'est-à-dire que c'est un droit, c'est pas quelque chose qu'on leur donne parce que voilà, c'est des femmes et que...
c'est pas un cadeau quoi.
C'est pas un cadeau, c'est leur droit. Mais le problème, c'est que pour ça, vous voyez, quand on regarde des grands combats féministes qui ont été menés en Europe dans les années 70-80, quand on parle du discours de Simone Veil à l'Assemblée nationale sur l'avortement, etc., etc., ça a été d'une conviction et d'une force et parfois d'une violence inouïe pour en arriver là. Et même là, c'est pas gagné. Regardez où on en est aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, avec ce qui se passe depuis quelques mois. On pensait que, et en fait non, on se rend compte qu'il y a des femmes qui ont été obligées de se taire depuis des décennies et des décennies face au harcèlement dans ces sociétés où pourtant ces grands combats ont été menés. Alors imaginez, chez nous, au Maghreb, le déploiement de forces qu'il va falloir mettre en place pour que les femmes, enfin, acquièrent les mêmes droits que les hommes.
Et vous parlez même de loi sur le viol conjugal, enfin de loi autour du viol conjugal. Finalement, on voit qu'en France, c'est une loi qui est rentrée en vigueur il n'y a pas si longtemps que ça. C'est quelque chose de très récent, même ici en Europe.
Oui, oui, complètement. On a tendance à l'oublier.
C'est dur de se battre pour ça, même en France, hein, que ce soit au Maghreb ou en France aujourd'hui. C'est un thème assez difficile.
Oui, tout à fait. Et pourtant, voilà, il y a quand même eu des avancées énormes en Europe sur ces sujets-là. Et moi, je pense qu'il n'y a absolument aucune raison. Si on se débarrasse de certains stigmates, si on se débarrasse d'une certaine ignorance, de ne pas faire la même chose aujourd'hui dans le monde arabe.
On l'aura compris, Razia, c'est un film à message. On continue de parler donc de Razia, votre film, Nabil Ayouch, qui est à l'affiche depuis mercredi dans toutes les bonnes salles en France. Film avec Mariam Touzani, avec Aria Worsfelder, avec Abdelil Rachid, Dounia Bimedine, Amine Enagi et bien d'autres acteurs. Razia, c'est le film de la semaine dans Studio B. Vous restez avec nous. Dans quelques secondes, on écoutera la bande-annonce du film. Il y aura les actus, le box-office. Bref, c'est le programme de Studio B. Et jusqu'à midi, à tout de suite.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda.
Ouais, vous écoutez Studio B, le magazine ciné de Beurre FM, tous les dimanches entre 11h et midi. On vous donne rendez-vous pour parler de cinéma et du beau cinéma aujourd'hui et cette semaine avec Razia, le film de Nabil Ayouch. C'est notre invité jusqu'à midi. On continue de lui poser plein de questions juste après avoir écouté la bande-annonce.
Michi. باش نتصوت لك هاي الدين من بعيد نبقى نبقى ونقاوم
واش بصح كدرس بالامازيغية اللغة الوحيدة ديالنا هي اللغة العربية
بغي يستوعب والو
اللي يولفهم
وتار ما عندك
اش هاد الوسخ هذا اللهم إن هذا منكر
راتب الناغت
داري ما تسكر غي الضو
ميتيالي شانديري دابا
ما عرفاش
يوصف السيري طيحي
ما حمسكش
كنت همش اللغة إلى حرمت يوم من الصوت كي همش الإيمان إلى حرمت يوم من الحلم.
Une bande-annonce en forme d'aperçu de ce film. On voit que la musique est bien présente. Une belle musique qui accompagne votre film, Nabil Ayouch, Razia. Le film est à l'affiche. Linda.
Alors, je voulais savoir, dans votre film, on voit vraiment deux grosses périodes. Les années 80, plus précisément, c'était en 1982 et 2015. Est-ce que ce sont des années importantes pour le Maroc et qu'est-ce qui a changé depuis 2015?
2015, ça a été vraiment l'aboutissement de nos contradictions entre deux visions de société. Une vision qui est le Maroc de la diversité culturelle sur laquelle ce pays s'est construit. Et le Maroc rétrograde, conservateur qui veut nous ramener en arrière. Début des années 80, avec cette réforme de l'arabisation qui a été mal maîtrisée, mal pensée et qui a donné aujourd'hui une idéologie qui s'est construite au fil du temps, qui n'est absolument pas le Maroc des origines. Et 2015, avec toute une série d'événements qui se sont passés cette année-là, finalement, nous amène à faire un choix parce que la parole s'est libérée, des deux côtés. Mmh. D'un côté, des gens qui sont en soif, qui ont soif de liberté et qui vont crier cette liberté, qui vont revendiquer leurs droits. Et de l'autre côté, des gens qui veulent mettre des barrières à tous les niveaux de la société et au niveau, des comportements individuels, etc. etc.
On parle justement d'interdiction. Much Love avait été interdit au Maroc. Ça n'a pas été trop dur aujourd'hui d'avoir une autorisation pour tourner ?
Non. Pour avoir une autorisation, ça n'a pas été trop dur parce que je pense que les autorités ont compris que ça servait absolument à rien d'interdire. À part, au contraire, mettre la lumière sur un film.
Faire de la pub, ouais.
Donc là-dessus, je crois qu'ils ne referont pas la même erreur. Après, il y a la censure officielle et puis il y a la censure populaire. Et ça, c'est deux choses très différentes. Et chez nous, la censure populaire est limite, plus forte et plus violente que la censure officielle parce que là, c'est toute une série de barrages, d'entraves, qui sont à tous les coins de rue, c'est-à-dire en gros un décor dans lequel qu'on avait booké et la veille qui tombe parce que les propriétaires apprennent que c'est moi le réalisateur. Évidemment, la production faisait en sorte chaque fois d'éviter de le dire. Des acteurs qui reçoivent des pressions, des syndics qui veulent pas nous laisser rentrer. Enfin voilà, ça a été des entraves au quotidien pour faire ce film. Mais en même temps, vous savez, cinéma, c'est un combat et c'est quelque chose de difficile, quoi qu'il arrive, sous quelque cieux que ce soit. Et moi, ça fait partie des choses qui me motivent de devoir affronter l'obscurantisme sous toutes ses formes.
Il sera diffusé au Maroc, Razia ?
Il est diffusé au Maroc.
Ah, mais ça c'est bien.
Depuis le 14 février. Oui, c'est très bien, parce que le public est venu en masse, il s'est déplacé pour voir le film, parce qu'on a voulu rompre mon lien avec le Maroc, avec ce pays que j'aime, avec cette société que j'aime, avec ces gens que j'aime, et qui n'ont pas réussi. Preuve en est, quand Razia sort, les gens viennent le voir. Et puis surtout, on a fait une tournée dans tout le Maroc, dans des villes où il y a des salles, des villes où il n'y a plus de salles. Et les jeunes étaient là, la jeunesse marocaine. Et ils avaient soif de questions autour du film, parce qu'ils ont compris que ce film parlait d'eux. Il parle de nous, mais il parle d'eux avant tout.
Globalement, il est bien accueilli. Il n'y a pas de mauvais retours ou des gens qui sont bloqués ou contre.
Si, bien sûr. Il y a toujours ceux qui se bouchent le nez ou les yeux. Et la bouche, oui, comme les trois petits singes et qui disent, oh là là, mais non, mais pourquoi ce film encore, machin, et on ne veut pas voir ça. Mais comme le film a une manière de dire, d'exprimer les choses beaucoup plus apaisées que Much Loved, donc c'est un film qui déjà potentiellement peut attirer un public beaucoup plus large et globalement je dirais à quelques exceptions près, le film touche et le film interpelle.
C'était une volonté peut-être de faire plus apaisé que Much Love pour arriver à faire passer un message sans être aussi fort ou violent que Much Loved ?
Non, pas du tout. C'est simplement voilà, un moment, une envie de cinéma, de personnages, de sujets. Et derrière, une manière, un langage cinématographique auquel je réfléchis, qui se prête à ce que j'ai envie de dire. C'est pas du tout une façon de dire « Ah bah tiens, là, j'ai fait un film dur dans sa forme d'expression, là je vais revenir à une autre forme de cinéma, parce qu'il n'est pas exclu qu'à l'avenir j'y revienne. »
Et après toutes les menaces hein, et les restrictions que vous avez pu avoir pour Much Love, comment est-ce qu'on retrouve encore la motivation de continuer à réaliser des films « coup de gueule » entre guillemets ?
Vous savez, il y a un vieux proverbe chinois qui dit « Plus on jette de pierres sur la montagne, plus la montagne grandit. » Et moi, je crois beaucoup à ça. Je crois que rien n'est acquis. Et notamment, si on parle de conviction, quelque part, l'épreuve que j'ai dû traverser avec Much Loved m'a renforcé dans mon idée de conquérir un espace de liberté, d'une part, et d'autre part, que ma place, c'est là-bas.
Razia est dans les salles, on en parle jusqu'à midi, mais là c'est l'heure des news.
Studio B, les sorties ciné de la semaine.
Mais non, pas du tout les sorties ciné, mais c'est bien l'actu ciné, le jingle qui aurait dû partir. L'actu ciné qui commence ici par le box-office. La Ch'tite Famille en France est toujours aussi forte au box-office. La comédie de Danny Boone reste en haut du box-office avec 1,3 million de places vendues la semaine dernière. Seconde place pour Black Panther, qui continue de bien marcher aussi, mais beaucoup moins bien que La Ch'tite Famille avec seulement 404 000 places vendues. En troisième place, bonne surprise pour The Shape of Water, La Forme de l'eau. Alors il était sixième la semaine dernière, alors que tous les films ont beaucoup baissé en nombre de places vendue d'une semaine sur l'autre, c'est le seul à augmenter, sûrement grâce à son sacre aux Oscars. La Forme de l'eau, troisième donc, avec 268 000 places. Ensuite, on retrouve Le Gang des Trois, Le Labyrinthe 3, quatrième, Les Tuches 3, cinquième, et Belle et Sébastien 3, qui est sixième. Tout ce classement devrait bien bouger la semaine prochaine avec les chiffres du printemps du cinéma. C'est ce week-end qui va ramener beaucoup de monde au ciné, surtout avec le mauvais temps. Aux États-Unis, c'est toujours Black Panther qui est toujours en tête du box-office. 40 millions de dollars supplémentaires rapportés. Seconde place pour le Disney Live, Un raccourci dans le temps, avec 33 millions de dollars. Et troisième place pour The Strangers Pray at Night, avec l'accent c'est encore mieux, un film d'horreur qui sortira dans un mois chez nous. Chez nous, l'événement qui est attendu dans pas longtemps, c'est Taxi 5, et on en sait un peu plus, Linda.
Et oui, après avoir dévoilé déjà un premier teaser en janvier dernier, Taxi 5 nous en montre cette fois-ci un peu plus, avec une bande-annonce explosive. Alors pour rappel, c'est Franck Gastambide, auteur notamment des Kaira et de Pattaya, qui a été engagé par Luc Besson afin de reprendre le volant sur ce cinquième opus de la saga Taxi. La nouvelle génération prend ainsi la relève, laissant Samina Seré et Frédéric Diefenthal, héros des quatre premiers Taxis, en dehors de ce projet. Place donc à un nouveau duo formé par Malik Bentala et Franck Gastambide. Ce dernier incarne Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d'exception, muté contre son gré à la police municipale de Marseille. L'ex-commissaire Gibert, devenu maire de la ville, est au plus bas dans les sondages. Il va alors lui confier la mission de stopper le redoutable gang des Italiens qui écume des bijouteries à l'aide de puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n'aura pas d'autre choix que de collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel Morales, Eddy Maclouf, donc Malik Bentala, le pire chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire taxi blanc.
Bon voilà, pour les infos pour Taxi 5, on vous cache pas qu'on va essayer d'avoir, de faire une émission autour de Taxi 5, mais que c'est un petit peu compliqué avec la promo de ce film qui bon, pour l'instant, nous répondent pas beaucoup, mais on attend des news. Ça ne se sent pas bon pour OSS 117.3, par contre.
Eh oui, Christophe, hein, ça s'annonce même très compliqué, hein, puisque Michel Hazanavicius n'aime pas le scénario, hein, il veut donc pas du tout réaliser le film. Alors l'idée d'Hazanavicius pour la troisième aventure était que le personnage d'Hubert Bonisseur soit dégarni, bedonnant, et aller encore plus loin dans le décalage entre sa génération et la nouvelle. Visiblement, ce n'est pas du tout le chemin emprunté pour le troisième film par les scénaristes. Jean Dujardin, qui a annoncé le troisième opus, rempile dans le rôle principal. À la place d'OSS 3, le réalisateur part sur un autre projet, l'histoire d'un veuf dont les histoires du soir qu'il raconte à sa fille prennent vie. Hazanavicius a terminé la réécriture du script et il faut savoir que le premier rôle sera attribué à Omar Sy.
Donc il y aura bien un OSS 3, mais pas par Michel Hazanavicius.
C'est ça.
Tu vas nous parler de la fête du court-métrage.
Du 14 au 20 mars 2018 se déroulera la deuxième édition de la fête du court-métrage. Cette manifestation nationale est organisée par l'association Fête des Courts, Fête des Films, et soutenue par le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, ce qui permet à tous de redécouvrir le court-métrage, ou de le découvrir même au travers de projections partout en France. C'est également une manière ludique aussi de sensibiliser les jeunes à la diversité de la création cinématographique et de développer leur sens critique et artistique. Il y a plus de 180 films et la programmation de cette nouvelle édition, elle est plutôt riche et éclectique en termes de durée, de genre et d'origine. Surtout que tous les goûts sont mis à l'honneur.
La fête du court-métrage donc jusqu'à mardi. Et autre fête jusqu'à mardi, c'est le printemps du cinéma.
Ouais, la fête du cinéma. Alors faut en profiter. Les places sont à 4 euros partout en France et jusqu'à mardi.
Voilà, profitez-en pour aller voir par exemple Razia cet après-midi. Voilà. À 4 euros, c'est vraiment pas cher pour ce film.
Et si vous êtes fan de Soprano, sachez qu'il fera une légère apparition dans le prochain Taxi 5.
Ah ouais,
on parlait juste avant. Ouais. On finit avec la sortie de la bande-annonce de Gringo, une comédie d'action sur la légalisation du cannabis et ses dérives. Le long-métrage porté par David Oyelowo et Charlize Theron sort dans nos salles le mardi 8 mai.
T'as dit comment le nom du réalisateur ? Oyelowo ?
David Oyelowo, je crois.
Moi, je me serais pas risqué à le prononcer.
Ouais, voilà.
J'aurais dit David.
Je me suis entraîné ce matin.
Allez, restez avec nous. C'est Studio B jusqu'à midi sur BFM. On parle de cinéma et on parle de Razia, le film de Nabil Ayouch, qui est à l'affiche dans toutes les salles. À tout de suite.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda.
Studio B, c'est le magazine ciné de Beurre FM. On vous donne rendez-vous tous les dimanches entre 11h et midi pour vous parler de cinéma. Et cette semaine, c'est Razia, le film de Nabil Ayouch, qui est dans les salles.
Studio B, la revue de presse.
C'est l'heure de la revue de presse. Un petit aperçu de ce qui a pu se dire sur votre film dans la presse, Nabil Ayouch. On va commencer par cette critique de Victoria Guérin dans Le Point, qui dit « Une chronique urbaine édifiante sur l'islamisation plus ou moins larvée selon les milieux sociaux, le sexisme ou encore l'antisémitisme, et dresse le portrait d'une société déchirée entre les sirènes du monde moderne et la morale toujours plus répressive, ce qui illustre formidablement cette scène durant laquelle la jeune Inès fait sa prière avec, à l'arrière-plan, les clips de MTV. C'est vrai qu'elle est géniale, cette scène.
Et en même temps, elle est terrifiante parce qu'elle montre à quel point cette jeunesse favorisée, des beaux quartiers, qui va à la mission française, est complètement coupée de son pays, du cœur du Maroc, du cœur vibrant de la société. Prise entre une volonté de modernité avec des schémas totalement occidentaux autour desquels ils se construisent, et en même temps prisonnière d'une forme de tradition qu'ils ne comprennent pas.
Ça rappelle, oui, c'est la jeunesse dorée marocaine qu'on avait vue par exemple dans le film Maroc qui était sorti il y a quelques années. Critique plus négative dans L'Obs de Nicolas Scheller. Entre 1982 et 2015, des montagnes de l'Atlas au faubourg de Casablanca, le réalisateur superpose les destins de ses personnages, mais sa tentative de récit choral façon Babel, Iñárritu se heurte à une écriture démonstrative et au jeu appuyé de certains comédiens. Le geste politique est fort, le geste artistique aussi fin qu'une coulée de harissa sur une montagne de loukoum. Bon, la comparaison est bon, on va laisser la comparaison telle qu'elle est. C'est un petit peu voilà, on fera pas de commentaire là-dessus. Mais vous entendez cette critique un peu sur l'écriture démonstrative ou le jeu trop appuyé?
Je l'entends. Oui. Est-ce que je suis d'accord? Évidemment que non, parce que je pense que d'ici ce qui peut paraître à certains ou certaines comme trop démonstratif ou trop appuyé. Alors d'abord, je trouve que le film ne l'est pas du tout. Et puis surtout, je pense que c'est aussi une vision un petit peu biaisée qu'ils ont de la réalité là-bas, qui fait qu'à un moment donné ou à un autre, ils ont l'impression que on part dans certains excès, là où pour nous, ça fait partie de notre réalité, notre réel, notre quotidien, et le fait de le montrer est quelque chose qui n'est pas du tout artificiel. C'est au contraire quelque chose d'extrêmement vrai, extrêmement ressenti. Quant aux comédiens, je les trouve absolument tous exceptionnels dans leur manière d'incarner ces combats.
Le site avoiralire.com, Claudine Levaneur, qui a écrit « Poussé par l'amour qu'il porte à son pays et sûr de la capacité du peuple à construire un nouveau modèle de société, il signe une mise en garde universelle et puissante contre l'intolérance progressive qui gagne non seulement son pays, donc le Maroc, mais le monde entier. » Est-ce que votre message peut, enfin, qui forcément est centré sur le Maroc, puisque le film se passe au Maroc et vous parlez de ce qui se passe au Maroc, mais est-ce que c'est aussi un petit peu universel?
C'est ce que j'aime dans ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement...
C'est pas moi, c'est Claudine Levaneur.
Ouais, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont vu le film comme s'arrêtant aux frontières du Maroc. Or, le film, bien sûr, est tourné là-bas en arabe avec des comédiens marocains, mais c'est un film qui parle du monde. C'est un film qui parle de combat. On parlait tout à l'heure de harcèlement il y a quelques mois... Enfin, depuis quelques mois en Europe, aux États-Unis, c'est un film qui parle de combats qui sont, pour moi, tout à fait universels, et des femmes qui ne peuvent plus s'habiller comme elles veulent dans certains quartiers de Paris ou autour de Paris. Il y en a aussi, beaucoup.
Et puis, une dernière de l'Express. Antoine Le Fur, le Maroc, semble avoir trouvé son cinéaste majeur. Ça met la pression, ça?
Ouais, ça met un peu la pression.
Linda?
Alors, nous, on va revenir sur les personnages. Hein. Salima, jouée par votre femme, Mariam Touzani, qui, elle, est mariée dans le film à un homme légèrement macho. Il n'écoute pas du tout ses besoins, comme l'envie qu'elle a, par exemple, de travailler. Est-ce que ça, c'est récurrent au Maroc, des femmes, par exemple, qui ne peuvent pas travailler
Les femmes, malheureusement, commencent petit à petit à disparaître de plus en plus, que ce soit en politique, ou que ce soit dans l'économie. Il y a de moins en moins de femmes qui travaillent, paradoxalement. C'est-à-dire qu'on suit un sens inverse de l'histoire. En politique, il y a 20 ans, il y avait des femmes avec des portefeuilles ministériels majeurs. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc oui, c'est quelque chose qu'on est en train de vivre, contrairement à la Tunisie, par exemple.
Alors, c'est votre femme donc, qui joue Salima. C'est son premier rôle. Comment est-ce que vous vous êtes dit, ce rôle-là, il est fait pour elle ?
Alors, je ne me suis pas dit, il est fait pour elle, non. Au départ.
Parce comment ça s'est passé ?
Non, on l'a écrit en se disant...
Oui, elle a co-écrit, ouais. Co-scénarisé avec vous, c'est ça ?
Ouais, on a écrit le scénario à deux. Et en se disant, bon voilà, on a envie de parler de cette femme, parmi les autres personnages. Et c'est en cours de route qu'on s'est rendu compte à quel point Mariam, elle-même, ses combats, son attitude dans la vie de tous les jours, était finalement notre source d'inspiration majeure pour écrire Salima. Donc à un moment, je lui dis, écoute... ça te dirait de passer des essais pour le rôle, parce que de plus en plus, je te vois. Je t'imagine en pensant et en écrivant Salima. Et elle a été très surprise. Et en même temps, oui, elle les a passés, parce que je crois qu'au fond d'elle, il y avait une petite flamme, un désir de se dire, voilà, je vais essayer. Et je trouve que les essais étaient très convaincants.
C'est vrai qu'elle joue bien. Vous avez appris avec votre femme encore que vous attendiez un heureux événement pendant le tournage. Ça n'a pas été trop dur de gérer certaines scènes pour elle ?
Ça a été étonnant et interpellant de voir qu'à un moment, le réel a rejoint la réalité, la fiction, ce qu'on avait écrit. Parce que c'est vrai que dans le film, elle est enceinte. Et que d'ailleurs, une de ses premières scènes, c'est cette vieille femme berbère qui lui dit « tu es enceinte ». Et qu'à l'époque, par contre, quand on avait tourné ces scènes, on ne savait pas qu'elle était enceinte. Et puis on l'a su...
C'est prémonitoire, c'est dingue.
C'est assez étonnant, ouais, mais il y a beaucoup de choses dans ce film qui sont de l'ordre de l'anticipation, et c'est limite effrayant. Et on l'a su, finalement, quand la veille de cette scène où elle va chez la masseuse au hammam. Donc imaginez...
Bon, je ne voulais pas le dire, je ne voulais pas spoiler, moi. Donc...
Non, non, mais j'en raconte pas plus, je ne dis pas quelle est la teneur de cette scène, mais vous qui avez vu le film, imaginez dans quel état devait être Mariam au moment du tournage.
Elle a eu beaucoup de chance.
Exactement. Exactement.
Alors, autre personnage qui
Khamsa
moi...
Khamis, comme on dit.
Khamsa Khamis. autre personnage qui, moi, m'a marqué, c'est l'instituteur Abdallah, qui a un amour fou, on le voit tout le long, au début du film, pour son travail et ses élèves. Et à contrario, il ne se bat pas, et il part. Pourquoi ce choix sur le scénario ?
Parce que je veux parler aussi de ce qui nous abîme et de nos défaites. Et je pense que la défaite de cet instituteur, le fait qu'il ait abandonné sans combattre, c'est finalement la défaite de toute une partie de l'humanité.
Parce qu'on ne s'y attend pas du tout, on l'imagine vraiment aller jusqu'au bout pour ses élèves, et puis s'en va, et puis on est triste derrière l'écran. C'était important pour vous de parler de l'éducation ?
Ah mais évidemment, vous savez, moi, ce qui m'a sauvé, c'est l'éducation, c'est l'école.
Vos parents étaient instituteurs, c'est ça ?
Ma mère était prof. Ma mère était prof d'espagnol et de français en banlieue parisienne, là où j'ai grandi, à Sarcelles. Et puis j'avais surtout des profs à l'école qui m'ont ouvert des fenêtres sur le monde. Et j'ai vu la différence avec des copains à moi qui étaient complètement largués et qui ont pas pu aller au bout de leur parcours scolaire. J'ai vu à quel point l'école m'a appris, m'a apporté et m'a emmené quelque part.
Il y a aussi le jeune de la Médina, Hakim, qui lui ne jure que par Freddie Mercury. Que représente la musique de Queen pour vous ?
Freddie Mercury, pour moi, c'est le mec par excellence qui a réussi à aller à la recherche de ses identités plurielles, que ce soit au niveau des identités de géographiques, de là où il vient, à cheval entre trois pays, et en même temps de ses identités sexuelles. C'est comment cet homme a réussi à incarner cette quête identitaire et à aller au bout d'un modèle d'inspiration pour des jeunes ici en Occident qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. Et je trouve que c'est quelqu'un qui peut tout à fait être une source d'inspiration pour un jeune de la Médina de Casablanca. En tout cas, j'aime cette idée.
Mais pas que, hein. Il vient d'Afrique, il me semble, de Zanzibar.
De Zanzibar.
J'y vais dans pas longtemps. Ouais. Petite clin
d'œil. On saura tout ce qu'on dit.
Je sais, à chaque fois tu me dis, je raconte ma vie.
Il y a sa maison encore, hein, si vous allez là-bas.
Je vais aller voir ça, justement. Ouais. Ouais. C'est prévu.
Tu nous en parleras.
Voilà. On ressent dans le film, pour ces cinq personnages, deux vies vraiment distinctes. Hein. Celles qui veulent montrer et leur double vie un peu secrète. C'est réel, ça, aujourd'hui, au Maroc?
C'est plus que réel. C'est ce qui nous abîme. C'est cette schizophrénie.
C'est ça.
Et ça, c'est pas qu'au Maroc.
Oui.
Dans le monde arabe en général, c'est quelque chose que j'observe quand je voyage. C'est de voir, à part peut-être au Liban, qui est un peu une exception, mais c'est de voir à quel point toute cette jeunesse a des rêves contrariés, a envie d'être. Et en même temps, on ne les laisse pas être. Donc, ils sont, mais secrètement. La nuit, avant de dormir, ou sur Internet, en allant visiter des sites proches de ce qu'ils sont et de leurs aspirations. Mais le lendemain, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ça devient vraiment une espèce de volte-face qui fait de la peine.
Oui. Et qui gagnera à la fin?
Qui quoi?
Qui gagnera à la fin? Quelle face gagnera?
Bah, j'espère que c'est... vous savez, moi, je pense que c'est très important d'être en harmonie avec soi. C'est une des conditions essentielles du bonheur. Et je pense que pour aimer l'autre, il faut commencer par s'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même tel qu'on est, réellement, au fond. Donc j'espère qu'on va y arriver.
Quel genre de modèle vous souhaitez voir se construire pour le Maroc dans les années à venir?
J'aimerais véritablement qu'on retrouve ce Maroc que j'ai aimé quand j'étais gamin, qui est le Maroc des origines. Où j'ai vu des musulmans, des juifs, des chrétiens, des amazirs, des berbères, des arabes, vivre ensemble et construire ce qui pour moi relève de l'exception la plus totale. Parce que le Maroc, je pense avec le Congo-Kinshasa, est le pays en Afrique qui a la plus grande diversité culturelle. Et je trouve que c'est d'une richesse et d'une force absolument inouïe. Et de passer à côté de ça, par volonté d'hégémonisme, ou par idéologie, ou par dogme, je pense que c'est non seulement une absurdité totale, mais c'est aussi quelque chose qui nous a fragilisés. Donc j'aimerais qu'on arrive, pas comme un concept un peu creux, mais comme quelque chose auquel je crois fondamentalement, à recréer ces conditions du vivre ensemble, où on s'accepte, on se reconnaît et on se respecte. Parce que ça va nous emmener, à mon avis, très haut, très loin, très fort.
Il y a un des personnages dans votre film qui est juif et avec qui on voit justement ces problèmes qui peuvent arriver aussi. Peut-être moins, que le mélange est plus compliqué aujourd'hui.
Bah oui, bah parce que, à cause de l'ignorance. Justement, on en revient à l'école. Parce qu'on n'a pas appris aux enfants cette histoire, ce grand récit national. Et c'est pour ça que l'école, c'est important qu'elle joue son rôle. C'est pour ça que la défaite d'Abdallah au début du film lance tout le récit de cette façon-là. Parce que, voilà, c'est quelque chose qui est inné, qui est dans notre ADN, mais qui s'entretient, qui s'apprend. Et si on l'apprend pas, à un moment, on rompt cette chaîne de l'apprentissage, on crée, on fabrique de l'ignorance, et là, petit à petit, c'est la porte ouverte à toutes les dérives.
Dans Razia, on fait beaucoup référence au film Casablanca, mais pas que. Hein, on parle aussi de la ville Casablanca, qui est très souvent mise à l'honneur. D'ailleurs, vous tournez là-bas. Pourquoi?
Moi, j'adore cette ville.
Qu'est-ce qu'elle représente pour vous?
Une source d'inspiration au quotidien. Je suis très heureux de vivre à Casablanca parce qu'elle me laisse en vie. Et parce que chaque fois que je sors dans la rue, pas dans le Casablanca du centre, mais dans le Casablanca de la périphérie que j'aime, parce que j'ai lancé pas mal d'initiatives dans les quartiers populaires, de centres culturels ou autres, je trouve qu'il y a une énergie absolument démente. Alors, elle est épuisante, cette ville, évidemment, comme toutes les grandes villes monde. Mais en même temps, quand on réussit à aller chercher au plus profond de la ville, on trouve des choses qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc je suis très heureux de vivre au quotidien à Casa et j'aime parler de cette ville, j'aime montrer cette ville dans mes films.
Une critique disait que vous la détestez autant que vous l'aimez.
Ah, je l'ai lu ça.
Oui, mais non, je la déteste pas. Je trouve qu'elle est polluée, je trouve qu'elle est chaotique, je trouve qu'elle est embouteillée, je trouve que...
C'est une grande ville.
Oui, mais en même temps, c'est pas du tout une ville que je déteste autant que je l'aime, c'est une ville que j'aime tout simplement, profondément.
Dernière question, et je vous laisse tranquille. Alors, pour finir, est-ce qu'il y a un prochain film, prochain projet, tourné à Casablanca encore ou ailleurs ?
Eh bien oui, mais ça reste entre nous.
D'accord.
Une comédie musicale hip-hop.
Ça reste entre nous, on ne répétera pas du tout à la radio.
Non.
Comme on n'était pas en direct, tout va bien.
Non, je trouve que... J'ai rencontré toute une communauté hip-hop au Maroc, qui existe d'ailleurs aussi en Algérie, en Tunisie. Il y a plein d'hip-hoppeurs et d'hip-hoppeuses. Et j'ai vu à quel point il y avait cette volonté farouche de s'exprimer, de se raconter à travers le hip-hop, des textes, à travers aussi des corps, absolument, la danse. Et ça m'a touché et je suis tombé sur un prof en particulier avec sa classe qui arrive à emmener ses gamins de manière absolument fabuleuse dans des endroits d'eux-mêmes qu'ils ne connaissaient pas. Et j'ai eu envie de construire un film autour de ça. Et ça va être de la danse, du chant et beaucoup, beaucoup d'énergie.
Et ben vous reviendrez en parler sur Beurre FM, en tout cas on l'espère. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, Nabil Ayouch. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. La suite, c'est le Book Club de Philippe Robichon et Émilie Avril. La semaine prochaine, on revient entre 11h et midi le dimanche. Les podcasts, vous les retrouvez sur beurrefm.net. Linda, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et d'ici là, n'oubliez pas que le cinéma, c'est mieux au cinéma, surtout pendant le printemps du cinéma. Ciao.
Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.